Bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence de Stéphane Chabanel, qui est un maître de la Fédération internationale des échecs. Et cette conférence, donc, c'est sur l'histoire des échecs, donc échec de la naissance au jeu.
Bonsoir à tous. Donc, effectivement, c'est une conférence donc, sur l'arrivée, plus exactement, des échecs en Europe, comment ils sont arrivés en Europe. Et avant ça, je vais vous faire un petit état des lieux très rapide des échecs actuellement. Donc ça marche. Voilà, déjà vous expliquer que le jeu d'échecs, on en connaît une variante, mais le jeu d'échecs, il a beaucoup, beaucoup de variantes, car lors de son développement, pas mal de civilisations ont développé leur propre jeu. Alors là, vous avez le Xiangqi, qui est donc la variante chinoise, à savoir que c'est le jeu intellectuel le plus joué au monde. Vous avez le Shogi, qui est donc la variante japonaise des échecs, et notre jeu d'échecs traditionnel. Alors nous, évidemment, on va essentiellement se focaliser sur la version dite occidentale, donc le jeu d'échecs que vous connaissez tous. Alors juste un petit titre d'information concernant le nombre, ce que ça représente actuellement. Attendez, il faut que j'aille. Voilà, je crois que c'est passé, non ? Oui. Donc là, vous avez une carte des pays membres de la Fédération internationale des échecs. Et en gris, vous avez les pays non membres. Donc vous voyez que ça représente une part infime des pays. Et c'est donc la FIDE, qui est la Fédération internationale des échecs, a fait une commande il y a quelques années, en 2012 pour être exact, pour avoir une estimation des joueurs qui jouaient aux échecs, pas uniquement en tournoi, mais de manière occasionnelle, familiale ou autre. Et ils sont arrivés à un chiffre assez impressionnant, puisqu'on arrivait à 605 millions d'adultes qui joueraient régulièrement aux échecs dans le monde. On parle toujours que des échecs hein, occidentaux. Donc ce qui correspond à peu près, du moins à l'époque, le nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde. Donc vous voyez que c'est assez un peu impressionnant. Il y aurait 100 000 joueurs qui joueraient continuellement en ligne. Enfin, pas les mêmes, bien sûr, mais qui auraient toujours 100 000 joueurs en ligne en train de jouer aux échecs. Donc voilà, on en dit que c'est un peu le géant dormant du jeu et des sports. Donc c'est assez important. Alors, je vais devoir faire une petite manip assez savante pour arriver. Voilà, je ne sais pas si ça passe correctement. Enfin, correctement non, mais au moins que ça passe, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc ça, c'est un peu le plan qu'on va suivre. Donc, vous voyez que les échecs viennent d'Inde, hein, ils passent en Perse, et après, au gré des conquêtes musulmanes, il va se diffuser dans toute l'Afrique du Nord pour arriver en Espagne, en Italie. Alors, il y a aussi un petit parcours le long de la mer Noire, là, pour arriver directement dans les pays slaves. Mais ça, on va moins s'en occuper, puisque la théorie qui nous intéresse, nous, c'est le côté plus européen. Donc voilà un petit peu comment ça va être le plan. Donc d'abord, l'Inde, on va voir que c'est très hypothétique. Après, la Perse, après, en suivant les conquêtes musulmanes, le jeu d'échecs va ainsi se diffuser. Alors, est-ce que je vais réussir à repasser ? Voilà, on devrait y arriver. Donc voilà, on va commencer par l'Inde qui serait alors. Le berceau des échecs, mais bon, on va voir que c'est très contesté actuellement, enfin du moins comme on le pensait. Voilà. Alors bon, il y a une légende, la légende de la création du jeu d'échecs, qui circule depuis très très longtemps, puisque les premières traces de cette légende, les premiers textes qui ont relaté cette légende, datent à peu près du XIIIe siècle, notamment dans des poèmes italiens. C'est la légende de Sissa. Donc, cette légende dit qu'un monarque, indien, avait pris un petit peu la grosse tête et n'écoutait plus du tout ni ses conseillers, ni son peuple. Et son royaume commençait à être un petit peu en difficulté. Ça peut arriver assez souvent quand on a le pouvoir. Et ses conseillers essaient de le convaincre d'ouvrir un peu, d'être un peu plus à l'écoute, mais il voulait rien écouter. Alors, un de ses sages, Sissa, eut l'idée de lui ouvrir un peu les oreilles de manière détournée en inventant un jeu. Alors, il a inventé un jeu où le roi est la pièce la plus importante, mais où le roi ne peut ni attaquer, ni se défendre contre ses ennemis sans l'aide de ses sujets, de ses pièces. Donc. Et donc là est né le jeu d'échecs. Voilà, ça c'est la légende de comment le jeu d'échecs est arrivé. Donc Sissa, le prince entend parler qu'il y a un nouveau jeu énormément joué dans son royaume et demande à Sissa de lui en expliquer les fondements, les règles. Et Sissa, à cette occasion, il lui apprend les règles et en même temps, il lui reprodigue les conseils qui n'avaient pas été écoutés. Petit à petit, le monarque, à force de pratiquer le jeu, commence à se détendre, à comprendre le message qu'a voulu passer Sissa. Et le royaume, grâce à une meilleure écoute, est rentré dans des meilleures dispositions. Alors, à ce moment, il y a le prince qui demande à Sissa, mais que veux-tu ? Que veux-tu comme récompense pour l'invention de ce jeu et ces conseils que j'ai réussi à suivre. Alors Sissa a dit, je veux quelque chose de très simple, je veux quelques grains de blé, uniquement des grains de blé, qui seront déterminés par le nombre de cases. Ils seront déterminés, alors il y a 64 cases, un échiquier. Donc première case, un grain de blé. Deuxième case, deux grains de blé. Troisième case, quatre grains de blé. Quatrième case, 8 grains de blé, etc., jusqu'au 64. Le monarque, un petit peu étonné d'une demande aussi modeste, accepte tout de suite et demande au trésorier de régler Sissa immédiatement. Les trésoriers commencent à faire le calcul, et là, surprise, le résultat est astronomique, c'est 18 quintillons de grains qu'il faudrait pour payer à Sissa. Évidemment, ce n'est pas possible. Ça représente, si on mettait les grains dans des wagons, ça représente un train qui irait de la Terre à la Lune, à peu près. Donc j'ai mis quelques d'autres images, mais voilà. Donc c'était la dernière petite pirouette de Sissa pour lui montrer qu'il fallait faire attention, même avec les meilleures intentions, on pouvait se faire abuser. Et ça montre aussi un petit peu que les échecs sont en relation avec l'infini. Hein, parce qu'on ne se rend pas compte visuellement que c'est possible d'arriver à des tels chiffres en suivant ce que disait Sissa. Par exemple, à titre d'exemple, il faut savoir que le nombre de parties possibles aux échecs, c'est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc cette légende, comme toutes les légendes, sont toujours un peu révélatrices de quelque chose. Alors les échecs, d'où viennent les échecs, à part bon, évidemment le côté un petit peu légendaire. On a certains ont vu même des traces des échecs dans l'Inde védique, c'est-à-dire déjà 2000 ans avant Jésus-Christ pratiquement. D'autres ont même prétendu que Bouddha avait interdit de jouer aux échecs le dimanche. Bon, tout ça est un petit peu folklorique, mais qui a quand même été pas mal diffusé. Et la dernière chose qui est encore maintenant diffusée, depuis, disons, 20-25 ans, il n'y a plus de livres sérieux qui écrivent ça, c'est le chaturanga. Donc, le chaturanga, c'est un jeu qui se joue à 4. Alors, chaturanga, c'est un terme indien. Ça correspond à peu près... ça correspond à peu près. Ça désigne les quatre parties des armées indiennes. Hein, c'est-à-dire que les armées indiennes, vous aviez les fantassins, les cavaliers, les chars et les éléphants. Donc c'était un jeu militaire qui se jouait également avec un dé. Et longtemps, on a prétendu que c'était l'ancêtre du jeu d'échecs. Bon, le problème, c'est qu'on avait déjà à l'époque pas vraiment de traces. Maintenant, on est de manière pratiquement sûre qu'avant le 7e siècle, il n'y avait pas de jeu, enfin, le 7e, on est gentil, mais il n'y avait pas de jeu qui se jouait à 4. Donc, on est sûr de rien. Alors, pourquoi il y a eu de telles erreurs ? Pourquoi on a cru que c'était le château Rangrin ? Parce qu'il y avait beaucoup d'indices qui permettaient ça. Un, après, le jeu va passer en Perse et les Perses ont prétendu qu'ils venaient d'Inde. Deux, le mot Perse, c'est Chatrang, qui vient de Chaturanga, étymologiquement, qui vient du mot Chaturanga. Donc, il y a eu beaucoup... Bon, maintenant, les scientifiques sont repartis à plat, ils recommencent à zéro, ils recherchent. Ils savent qu'il y a quelque chose, c'est peut-être passé par l'Inde, mais très certainement, d'ailleurs, par la route de la soie, par le commerce de l'époque, qui, en même temps que le commerce, il y avait des échanges culturels en même temps. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un jeu à quatre qui est l'ancêtre du jeu d'échecs, comme on l'a cru longtemps. C'est obligatoirement un jeu à deux, d'après les recherches actuelles. Voilà. Alors là, on va arriver à la Perse, où là, il n'y a pas trop... même s'il peut rester des petits côtés un petit peu fantasques, il n'y a pas trop de mystère sur ce qui s'est passé. Il y avait des écrits, il y a eu des écrits, il reste des traces très claires. Alors donc, le jeu serait arrivé au milieu du 6e siècle en Perse. Alors la Perse, à l'époque, c'était un royaume très puissant en guerre continue contre l'Empire byzantin. Alors, la majorité des infos datent d'un texte qu'on a retrouvé, dont on a retrouvé des traces, mais on n'a pas le texte en lui-même, parce que c'est un texte qui date de l'an 600, qui s'appelait l'explication du chatrang, donc qui est le mot... perse pour les échecs, et de l'invention du nar, qui est un ancêtre du bagamon, qui est un jeu très important dans ces pays-là, encore maintenant, très populaire, disons. Et ce texte a été repris plus tard et magnifié dans le Livre des Rois, qui est un livre un manuscrit de Firtoussi, un grand poète iranien, et dans ce manuscrit, il a retracé vraiment toute l'histoire de l'Iran. C'est une référence pour l'histoire de l'Iran. Et il parle notamment de comment les légendes seraient arrivées en Inde. Comment les échecs, j'ai dit les légendes, hein. Oui, c'est les échecs seraient arrivés en Inde. Alors c'est un petit peu, peut-être un petit peu fantasque, toujours c'est un petit peu romancé, mais à l'époque, c'est vrai que tout était un petit peu enjolivé, il y avait beaucoup de poésie. Donc, c'était aussi une manière de faire un peu de la communication. Donc, l'histoire racontée, c'est que le roi de Perse, qui était Khosrau Ier à l'époque, bon, je ne rentre pas trop dans les prononciations, a reçu l'ambassade du roi de l'Indus. Alors, l'Indus, ça se situe à peu près au Pakistan actuel. Et une ambassade très riche où il y avait 1200 chameaux, 990 éléphants et plein de joyaux, plein de présents, de l'or, de l'argent, des vêtements, des perles, etc. Et notamment un échiquier fait de 16 pièces d'émeraude et 16 pièces en rubis. Et c'est arrivé avec un défi où le roi de l'Indus disait au roi de Perse et à ses sages qui lui lançaient le défi, si vous trouvez les règles de ce jeu, ça sera la vérité. Si vous ne trouvez pas, vous devrez nous payer un tribut. Donc les sages un des sages trouve la solution au jeu et renvoie le défi en lui proposant un autre jeu et en lui disant pareil, si vous ne trouvez pas les règles de ce jeu, le mystère de ce jeu, vous devrez nous payer un tribut. Évidemment, et c'est à la gloire du peuple perse, le roi, les sages de l'Indus n'ont pas trouvé et ils ont dû payer un tribut. Alors ce jeu, c'était le nard, toujours le backgammon. Alors, dans ce texte aussi, il y a une description, toujours, ce fameux texte de l'an 600, l'explication du chatrange et l'invention du nard. C'est pour ça que, hormis cette fable un petit peu, on arrive à trouver des explications un peu précises de ce que c'est que les échecs. Alors là, je vous ai mis c'est les pièces. Les pièces, là, c'est une image des pièces les plus anciennes qu'on ait jamais trouvées aux échecs. C'est des pièces qui ont été trouvées elles ont été trouvées en 1977, ça c'est pas très vieux, mais qui dateraient du 7e siècle. Donc ça nous permet de voir un petit peu à quoi pouvaient ressembler les pièces d'échecs à l'époque. Donc c'est des pièces là d'ivoire, elles font à peu près 3 à 4 cm. Elles ont été trouvées ici en Ouzbékistan, ça c'est dans une ville qui s'appelle Afrasiab. Donc vous voyez, ça correspond un petit peu dans la région indiquée. Donc voilà, les pièces, vous aviez à l'époque donc le roi, le cavalier, le vizir, qui est le conseiller, le chariot, l'éléphant et le soldat. Donc vous voyez toujours cette présence de l'éléphant qui aussi nous fait fortement penser à l'Inde. Alors, vous avez les pièces se déplaçaient à peu près comme maintenant, à quelques, je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais disons que les grosses différences se situaient au niveau du vizir, qui était le conseiller, qui est maintenant la dame, et l'éléphant, qui est maintenant l'équivalent du fou. On verra pourquoi après, comment c'est devenu, c'est passé d'éléphant à fou. Alors, les deux différences par rapport au développement, vous avez le vizir qui faisait qu'une case en diagonale, et alors que la dame maintenant est la pièce la plus puissante, et vous avez l'éléphant qui faisait deux cases en diagonale. Quand je dis deux cases, c'est qu'il était obligé de faire deux cases, et il pouvait sauter, un peu comme le cavalier maintenant. Autre chose différente, vous aviez qu'un échiquier, l'échiquier était unicolore, il n'y avait pas deux couleurs, et vous aviez trois façons de gagner. Alors c'est marrant parce que moi, quand j'enseigne beaucoup les échecs aux enfants, ils ont naturellement, je me demandais pourquoi ça m'énervait un peu qu'ils gagnaient toujours comme ça, et en fait c'est naturel puisque les premiers gens qui ont été confrontés à ce jeu ont établi qu'il y a trois manières de gagner. On gagne par l'échec et mat, on gagne quand l'autre il n'a plus que le roi, mais le pat aussi permettait de gagner. Si on patait le roi, ça permet de gagner. Et quand on commence à jouer aux échecs, c'est vrai qu'on a tendance à être énervé quand on fait un pat. Alors, vous avez aussi... vous pouviez avoir... Donc ça, c'est les pièces. Et les pions pouvaient avoir aussi des fonctions... des fonctions d'être différents, puisque c'était figuratif. Comme maintenant, on a des pièces plus abstraites, les pions pouvaient avoir d'autres. Chacun est différent. Même, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a eu une époque où, vers le XIIIe siècle, où en Europe, pareil, on a fait ce qu'on appelle les échecs moralisés, où les échecs représentaient un peu la société. Et les pions, chaque pion avait son corps de métier, pour un peu illustrer ça. Donc c'est pour vraiment montrer que c'est une illustration. Ensuite, de là, les noms viennent aussi de cette période-là. Un échec vient de char, roi, et échec et mat, de roi et mort, charmat. Alors le seul un petit peu, Le seul un petit peu problème, c'est avec le mot rook, qui, nous, les Anglais ont gardé rook, nous, on a transformé en tour, mais il nous reste rock. Alors, on ne sait pas trop d'où vient ce mot. Par exemple, en arabe, il ne désigne que la pièce, comme en anglais d'ailleurs. En anglais, quand vous dites rook, ça veut dire la pièce d'échecs, ça ne veut pas dire autre chose. En arabe, il désignait aussi que la pièce et également un animal mythique, un oiseau mythique qu'on retrouve par exemple dans les Mille et Une Nuits. Donc c'est un mot, on n'a pas encore vraiment trouvé toute l'étymologie de ce mot-là. Alors dans ce texte aussi, on trouve que la Perse, en Perse, il y avait quand même beaucoup. Le jeu était quand même très joué au niveau quand même bon, des notables. Et il était quand même très bien diffusé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est un petit peu embêté pour trouver exactement d'où viennent les échecs, pardon. Et bon, certaines personnes disent, bah, tout simplement, il vient de Perse puisque tout vient de là. Alors, et pourquoi donc les Perses diraient eux-mêmes que c'est pas eux qui l'ont inventé? Donc ça, c'est la question. Ces personnes ont trouvé une réponse. Et disent, ils ne veulent pas des échecs. Ils ont dit par contre que le backgammon, enfin l'ancêtre du backgammon, c'est eux qui l'ont inventé. C'est prouvé que non. Et l'argument qu'ils donneraient, c'est de dire, étant donné qu'il n'y a pas de hasard dans les échecs, il n'y a pas de relation avec Dieu. Quand ils voyaient une manière d'être en relation avec Dieu, c'est le hasard. Ça veut dire que quand vous faisiez des bons dés, par exemple, c'était que Dieu le voulait bien. Donc ça serait leur argumentaire pour dire ils se sont débarrassés des échecs parce que ce n'était pas assez un jeu assez noble, assez divin, pour être digne d'avoir été créé par les Perses. Bon, je vous dis ça, on n'en sait pas, c'est une véritable enquête policière, ça va se poursuivre. Et bon, ça va mettre un petit peu de paquet d'années, ils vont se disputer. Il y aura un petit peu. Alors, oui. Alors, voilà, donc les Perses, très affaiblis donc, par leur conflit avec l'Empire byzantin, se font ratatiner un petit peu par les Arabes, qui donc profitent de l'affaiblissement pour prendre notamment possession de la capitale. Alors, c'est à ce moment-là où les Arabes vont s'emparer, donc ils vont. Enfin, s'emparer, prendre contact avec le jeu d'échecs. Donc, ils ont en même temps pris toutes les connaissances des Perses, toute leur organisation, et le jeu aussi. Alors, le jeu, effectivement, pouvait que leur correspondre, parce que vous avez deux aspects du jeu qui sont importants. Vous avez donc l'esprit militaire, c'est-à-dire de dire que c'est une représentation de la guerre, donc c'est un bon moyen de s'exercer à l'art de la guerre. Et bon, ils étaient très conquérants à l'époque. Et vous avez aussi le côté logique scientifique. Il ne faut pas oublier que parallèlement à ce qu'on a vu, le chemin qu'on voit actuellement, où nous on s'occupe de la transition du jeu d'échecs, en même temps, ils ont vraiment amené à l'Europe tout l'esprit scientifique. Hein. Les mathématiques, ils ont amené tout le savoir des Chinois, de l'Inde et même des Grecs. J'ai vu que dernièrement, les chercheurs sont assez surpris parce que la Grèce, c'est relativement près. On pensait que c'était passé par un chemin plus court. On s'aperçoit qu'en fin de compte, non. C'est les Arabes eux qui nous ont communiqué les recherches en mathématiques de Grèce. Pareil en médecine, par exemple, toute la médecine scientifique, dite scientifique, ou les anatomies, tout ça, les autopsies, pardon, ont été apportées aussi par les musulmans. Alors, il y a eu quand même un petit problème vis-à-vis de la religion, c'était de savoir, à savoir les pièces en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait qu'elles soient figuratives. Et un texte de Mahomet interdisait la reproduction de tout être animé. Hein, c'était une manière de contester le pouvoir de Dieu, de jouer un petit peu à Dieu en se prétendant. Donc, ils ont fait, vous voyez, un gros changement. Les pièces sont devenues abstraites. Alors, cette contrainte, en fait, ont été très bénéfiques pour le jeu d'échecs parce que ça a permis au jeu d'échecs, étant donné que, du coup, il était beaucoup plus facile à construire beaucoup moins cher, à le diffuser beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que les échecs ont connu très certainement un grand boost, plus le fait que... Je crois que j'ai perdu une fiche, mais bon, c'est pas grave. Le fait également... Alors là, c'est une autre pièce. Je vous ai mis également... Alors, pour que vous voyez ce que c'est qu'un échiquier unicolore. Hein, donc, voilà. Et aussi, vous avez les premiers textes, ici. Les premiers traités des... Les premiers traités des joueurs arabes. Alors, il faut savoir que, pareil que dans toutes les autres matières, ils ont amené un côté scientifique. Hein. Donc, ils ont commencé à analyser les échecs de manière très scientifique. Ils ont fait des positions types, ce qu'on appelle des tabia. Hein, d'ailleurs, c'est un terme qui est toujours utilisé actuellement par les grands stratèges des échecs, enfin, les grands théoriciens ont tabia, c'est des positions types. Et d'après, on dit, si on a cette position, après, on pourra faire ça et ça. Donc, ça date de 800 et quelques, 850 à peu près. Et bon, on a perdu tous les manuscrits, mais ils ont été repris par des joueurs arabes plus tard. Et ils ont repris, on a réussi, donc on a perdu les livres, mais on a encore les diagrammes. Il y a quelques problèmes qui sont encore intéressants de nos jours. Malgré les différences de déplacement de pièces. Donc, ils ont fait également des grands tournois. Ils ont fait également des grands tournois, organisé des grands tournois d'échecs. Il y a des grands joueurs, Al-Souli, etc., qui restent un peu dans la mémoire des échecs. Alors voilà, là on va arriver au moment. Où il va commencer. Ou alors, bon, là les Arabes se sont ont envahi toute l'Afrique du Nord et également une partie de l'Europe, hein, puisqu'ils sont arrivés jusqu'en Espagne assez vite, puisque là on est en 712, et vous voyez que déjà. Leur empire est très, très impressionnant. Donc, voilà. Donc là, c'est le moment où va commencer la transmission entre l'Europe et ces musulmans. Donc, ils arrivent, ils sont restés longtemps, hein, puisqu'ils sont, suivant les régions d'Espagne, ils sont restés entre 2 et 8 siècles, je crois, entre 200 et 800 ans, suivant les cas. Si la région est plus au nord ou au sud. Donc, ils sont restés très longtemps. Il y a eu beaucoup d'échanges culturels, même des mariages entre cultures. Création également d'universités. Hein, ils créaient des universités pour transmettre leur savoir. Là, on voit, bon, c'est une représentation d'un chrétien qui joue contre un musulman aux échecs. Une diffusion donc très lente, très dure à... Donc là, quand j'ai mis ici 712, je mets le chatrange. Ah oui, j'ai oublié de signaler le nom des échecs version musulmane. Donc c'est le chatrange. C'était le chatrang pour les Perses. Peut-être Chaturanga pour les Indiens. Et là, on arrive au chatrange. Alors, quand je dis 712, c'est un peu... c'est pas là où il a commencé à se transmettre. Disons que ce qu'on sait, c'est qu'en Europe, il a été largement diffusé à partir du fin 9e, 10e siècle à peu près. Donc là, on arrive au moment où il va se diffuser. On va regarder un petit peu. Voilà. Ça, c'est les premières, les plus anciennes pièces qu'on ait trouvées. Donc elles ont été trouvées, elles sont faites en ivoire. Elles ont été trouvées en centre de l'Espagne, et elles datent donc du Xe siècle, à peu près. Alors, vous en avez d'autres ici, qui précédemment elles étaient en ivoire, je ne sais pas si je rappelle. Là, elles sont en cristal de roche, donc elles datent à peu près de la même période. Et vous voyez que c'est encore, malgré qu'on soit en Europe, c'est encore donc les pièces musulmanes. Alors, ce jeu de pièces a une partie. Donc, c'était dans un monastère, donc le monastère d'Agers, là, qui se trouve près d'Andorre. Et il y en avait pas mal, il y en avait 96. Et il y en a 14 d'entre eux qui ont une histoire un petit peu marrante, qui sont revenus un petit peu aux sources de manière assez bizarre. C'est un petit peu un espace. Comme un trou de ver dans l'espace-temps historique. Il y en a, bon, il y en avait, je crois, 96. Il y en a 14 d'entre elles qui ont été vendues à l'émir du Koweït et qui, pas de chance, pendant la première guerre du Golfe, se les a fait piller par des soldats irakiens et hop, les pièces sont reparties à Bagdad. Donc c'est marrant, quelques siècles plus tard, elles sont reparties. Donc c'est les pièces d'Aga. Alors après. Vous avez donc ça, c'est les pièces dites de Charlemagne. C'est de la concurrence déloyale. Donc ce jeu-là est très important parce que c'est pratiquement la plus belle pièce qu'on ait retrouvée de cette période, en dehors des échecs, hein, je parle tout d'ivoire, toute découverte archéologique confondue. Il faut savoir que ce sont des grandes pièces. Alors je vais essayer de vous en montrer quelques-unes parce que j'en avais préparé, mais elles ne sont pas passées techniquement. Donc elles n'étaient pas du tout faites pour être jouées. Les rois pesaient près d'un kilo. Donc vous voyez que c'était du gros, gros matériel. Donc c'était plutôt un. Alors, on va devoir tenter une nouvelle manip. Voilà. Bon. Je vous dis, j'avais préparé les vidéos, mais elles ne sont pas passées. Non, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Pas tout le monde. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans ce jeu, vous avez le mélange, hein, vous avez à la fois. Des personnages, comme vous voyez le roi, par exemple, qui est quand même habillé à la façon normande, et pareil pour la reine, mais vous retrouvez en même temps, vous retrouvez l'éléphant, hein, qui date, puisque ça a même dépassé, comment dirais-je, c'est passé à travers toutes les pièces abstraites qu'on a connues, donc c'est vraiment quelque chose. Donc vous avez le char aussi. Alors, elles sont à la BNF, hein, donc là je suis sur le site, vous voyez peut-être de la BNF. Alors, la légende, toujours il y a un côté un petit peu légendaire dès qu'on a quelque chose d'un peu de joli. Elle aurait été offerte à Charlemagne pour son couronnement, hein, par le calife de Bagdad. Mais bon, le problème c'est que historiquement ça ne correspond pas du tout. Donc, on les appelle encore les pièces de Charlemagne. Mais ce n'est pas possible de manière historique. Donc, elles ont été fabriquées au XIe siècle en Italie, Salerne exactement. Et je crois que voilà, je vous ai à peu près tout montré. Alors, elles ont été, donc, on les a retrouvées à l'abbaye royale de Saint-Denis. Comment elles sont arrivées là de Salernes, on ne sait pas. Certains disent qu'elles ont été ramenées avec le corps de Saint-Louis au moment du transfert de Tunis-Saint-Denis. Et en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que pendant la Révolution, elles ont été épargnées, mais transférées de l'abbaye à la Bibliothèque nationale de France. Donc on les a encore, vous pouvez aller les voir, c'est vraiment de très belles pièces. Dans le cadre de belles pièces, j'en ai trouvé d'autres qui sont plus du côté... Excusez-moi, il y a un petit problème là peut-être. Ah, toutes mes images ont disparu. Ah oui, non, c'est moi qui... Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc là, ce sont des pièces aussi en ivoire, d'ivoire de morse. Très jolie, qu'on a retrouvée, elle, du côté, plutôt sur les îles britanniques. Donc qui date à peu près du 11e siècle, aussi un peu dans ces mêmes périodes. Donc là, on arrive un petit peu, on voit un peu les transferts entre les deux civilisations. Alors, vous avez donc les premiers textes qu'on a pu retrouver, qui datent de 990, des poèmes latins, et vous avez donc des transformations. Vous avez notamment tout de suite, ce qui apparaît tout de suite, alors c'est bizarre, mais ça s'est fait quand même très très vite, c'est une des premières choses qui a été faite, c'est le changement d'échiquier unicolore à échiquier bicolore. Bon, évidemment, c'était beaucoup plus simple pour suivre les mouvements, mais ça s'est fait assez vite. Et vous avez également le changement des pièces. Alors le vizir, hein, qui était donc le conseiller qu'on avait tout à l'heure, s'est transformé en fierce, vierge, dame. Bon, alors ça, c'est pas sûr. Il y a eu une étude comme ça, il y en a qui contestent, il y en a qui disent simplement, quand ils ont pensé quel était le conseiller dans les cours européennes, la personne la plus proche du roi, ils ont dit simplement que c'était la dame. Et donc, ils ont mis la dame. Alors, pour l'éléphant, alphil, qui était le terme, ils ne comprenaient pas ce que c'était en fait. Ils n'ont pas compris que c'était des éléphants. Et ils ont. Ces transformations sont faites essentiellement en Italie. Et ils ont transformé en auphine. Et après, en vieux provençal, ça donnait le fol, le fou. Alors, par exemple, vous avez les Anglais qu'on traduit différemment. Parce que quand ils ont reçu les pièces abstraites musulmanes, ils ont vu deux petites cornes, les petites cornes des éléphants, ils ont confondu ça avec les mitres des évêques, et donc du coup ils l'appellent bishop maintenant. Et donc c'est des choses un petit peu comme ça qui peuvent un peu varier. Alors après, vous avez eu des mythes, hein, évidemment. On a essayé, quand on a vu les échecs arriver en Europe, on s'est dit, certains ont voulu qu'on soit nous, la culture européenne qui a inventé ce jeu. Donc il y a eu le mythe de Palamède, qui était, quand il était à Troie, qui s'ennuyait, qui était déjà considéré comme... qui était dans l'esprit des gens considéré comme intelligent, il a inventé les échecs pour s'occuper pendant le 3. Le problème, c'est qu'après, il y avait un Palamède également dans les chevaliers de la table ronde, donc ils lui ont recasé aussi l'invention du jeu d'échecs. Et vous avez, après, le jeu d'échecs, petit à petit, il s'est... disons que pendant le Moyen-Âge, il n'y a eu aucune recherche scientifique vraiment importante faite par les Européens. La vraie cassure des échecs, comment les échecs dits modernes, ils arrivent à peu près en même temps que la Renaissance. À peu près au 15e siècle. Et là, vous avez, là, il n'y a pas eu trop de transformation. La transformation qu'il y a faite, ils n'ont fait aucune recherche scientifique. Donc le Moyen Âge, c'était peut-être pas là où, en Europe, du moins, on était le plus actif au point de vue créatif. Enfin, et ce qu'ils faisaient, ils trouvaient les parties un peu longues. Donc ils jouaient, parce que les pièces, vous voyez, par rapport à la dame, elles se déplaçaient que d'une case en diagonale. Donc ils jouaient au dé, la pièce qui devait être jouée. Et ils jouaient de l'argent. Donc petit à petit, le jeu était en train de disparaître jusqu'à ce que des Italiens et des... Et les Espagnols arrivent à redonner un coup de souffle en inventant justement, en donnant plus de puissance à la dame et au fou également. Voilà, donc en conclusion, on a vu un petit peu voilà, toute cette remontée du jeu d'échecs. Et voilà, j'attends vos questions sur un petit peu soit ce qui a été dit, soit sur le développement après. Et voilà. Oui ? Pour les échiquiers ? Ah, sur les cases, c'est-à-dire que en fait, ça permet de visualiser, par exemple, les diagonales plus facilement. Si tu as un échiquier, si vous avez un échiquier unicolore, c'est pas forcément facile, hein, de développer un petit peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Alors, ça, c'est un petit peu... disons que en peu près vers le milieu du... Enfin, milieu fin du 19e, ça a vraiment été unifié. C'est-à-dire que toutes les règles sont... Je vous dis, au moment de la Renaissance, on a eu les règles principales qui étaient là. Après, vous avez le problème du roc qui arrivait plus tard. Et qui est, parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a eu un moment où le roi avait le droit de jouer deux cases en sautant. Bon, je ne suis pas rentré trop en détail dans tous ces trucs un peu techniques. Et après, on l'a transformé parce que bon, personne ne le faisait en avant. Et tout le monde en faisait un espèce de roc en fait. Les seuls mouvements où on allait, c'était plutôt sur le côté. Et donc là, on a inventé le roc, mais ça, c'est assez tard. C'est arrivé en 17e siècle. Et l'unification, parce qu'après, vous aviez aussi des problèmes de langue pour communiquer les règles les uns aux autres. Et il y avait une tradition, d'ailleurs, qui disait à l'époque, je ne sais plus exactement à quel moment, mais la bonne règle, c'est la règle du pays où tu es. Donc ça, il a fallu, par exemple, aussi unifier les pièces. L'échiquier Stanton, pareil, c'est arrivé au 19e siècle. Donc c'est très, très tard, hein, parce qu'il faut voir que, par exemple, même le premier championnat du monde, tout ça, c'est à la fin du 19e siècle. Avant, il y avait vraiment l'unification de tout, de toutes les règles, a été vraiment de manière officielle très tard. Hein, je crois que c'est milieu du 19e à peu près. Oui ? Ah, attendez, on va passer un micro pour les questions. Peut-être que ce sera plus simple pour être sûr que tout le monde entende.
Donc, est-ce qu'il y avait de l'argent ou une autre récompense en dispute pour les vainqueurs ?
Alors, à cette époque-là, ils jouaient. Alors, il y a eu des problèmes avec la religion à cause de ça. Notamment la religion catholique a interdit à un moment les échecs, hein, parce que justement, les gens jouaient beaucoup d'argent. Et à l'époque, il y avait un dé. On jouait, pour choisir la pièce, on jouait au dé. Alors, je ne sais plus, je ne connais pas l'école, mais par exemple, je fais un, j'ai le droit de jouer le cavalier, deux, enfin, etc. Donc, ils jouaient de l'argent à l'époque. Hein. Bon, alors maintenant, il y a encore des jeux d'argent. Dans les tournois, il y a des jeux d'argent. Mais disons que c'est plus considéré comme un jeu d'argent. On peut gagner un prix, mais à l'époque, c'était un jeu d'argent. Sauf après, quand la religion catholique a interdit et de manière déguisée, on le faisait plus ou moins.
Pourquoi c'est en Russie qu'on joue le plus aux échecs ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi c'est en Russie qu'on joue le plus aux échecs ? Alors, c'est-à-dire, il y a eu un phénomène. Alors, comme je vous le disais, déjà, je n'avais pas trop parlé de l'expansion. Ici, le long de la mer Noire, Voilà. Donc, il faut savoir aussi que, bon, là, je vous disais qu'il y avait un débat sur l'origine du jeu d'échecs, par exemple. Vous avez les Russes qui prétendent que ça vient d'eux. Hein. Actuellement, on a les Chinois qui se mettent aux échecs européens de manière sérieuse. Et pareil, eux, bon, c'est peut-être plus crédible, mais eux aussi disent que les échecs viennent d'eux. Alors, pourquoi les échecs jouent bien maintenant aux échecs et ils sont nombreux? Parce que, bon, tout simplement, c'était un support de propagande pour l'Union soviétique. Hein, c'était une manière de prouver que leur système pouvait générer de l'intelligence, que grâce au travail, enfin, ils ont constitué des véritables écoles, et c'est vrai que les champions du monde ont été longtemps soviétiques. Mais ça, c'est une volonté politique aussi. Après, vous avez des traditions plus ou moins fortes. Mais c'est vrai que là, quand on voit là, il est arrivé quand même assez vite aussi. Alors, nous, on a peut-être moins d'informations parce que nous, notre information se régit, on est vachement européen. Et c'est vrai que les Slaves, il n'y a pas eu forcément beaucoup de connexions dans les informations. Mais on voit qu'eux aussi, ils ont dû avoir les échecs très tôt aussi. Donc, ils ont une culture, hein, parce que même au début, dans les premiers champions du monde, on parle souvent, quand vous voyez dans l'histoire du jeu, on parle souvent, par exemple, au temps de la Régence, on parle essentiellement des Français, des Anglais, mais vous aviez des joueurs comme Tchigorin, qui était déjà très fort et qui a monté l'école russe. Sauf qu'on en parle moins maintenant, ici. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais... Oui, c'était vous, pardon. Une autre question là-bas, je crois. Oui. Ah, oui, là. Pardon. Ah oui, excusez-moi.
Oui, alors, dans votre exposé, vous posez certaines questions qui n'ont pas toujours été posées, en fait. C'est parce qu'à partir du XVe siècle, vous l'avez très bien dit, ça, je vous en remercie, à partir du XVe siècle, l'Europe a décidé de falsifier une certaine partie de son histoire. L'histoire qui démarre, vous avez cité la date de 737, lorsque les Arabes attaquent la Perse. Il y a eu 739 où ils entrent en Égypte. Dans le territoire égyptien, de 739 à 711, avant d'arriver en Espagne, ils ont passé presque un siècle en Égypte.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est de là, c'est du legs technologique, scientifique, etc., de l'Égypte, qu'ils sont entrés en Europe. Ils n'ont rien apporté. On ne peut pas démontrer que les Perses, que les Chinois, ont apporté quelques legs scientifiques aux Arabes. Et les Arabes le disaient. C'est à partir du XVe siècle, lorsque l'Espagne a réussi à chasser les Arabo-Maures ou les Sarrasins, qu'à partir de ce moment-là, l'Église catholique principalement a décidé que certaines informations n'étaient plus acceptables. Et du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, l'apogée, on a caché... On a falsifié l'histoire réelle.
Oui, vous voulez dire qu'on a falsifié cet apport du monde musulman. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est eux qui ont vraiment apporté tout le côté scientifique. Hein. J'en ai parlé rapidement, mais on s'en aperçoit de plus en plus. Même maintenant, je vous disais, quand le cas de la médecine, des mathématiques, par exemple, par rapport à la Grèce. Du coup, je me suis renseigné parce que je voulais voir un peu ce qui avait suivi les échecs et dans quel état d'esprit. Ben, c'est vrai que même, ils ont eu du mal à croire que la Grèce ait fait tout ce tour pour nous communiquer. Enfin, qu'on ait
et justement, la Grèce n'a pas fait tout ce tour. C'est pas la Grèce.
Je veux dire, c'est les musulmans qui ont...
Voilà, les Grecs, même les historiens grecs, Hérodote, Plutarque et autres, disent très clairement que le grand scientifique, que le grand philosophe ont été formés en Égypte. Tous. Ah, Pythagore a passé 22 ans en Égypte, Platon 13 ans, etc. Et il se trouve que la réponse à votre information, elle est là. C'est du passage...
Ah, donc vous dites que les échecs viennent d'Égypte, très haut, c'est ça ?
Alors, je dis qu'on trouve plus de témoignages d'une origine possible en Égypte qu'ailleurs. Vous voyez, tout repose... Les hypothèses que vous présentez sont... Pardon ? Pas du tout. Elle a été occupée par les Grecs.
Depuis Alexandre.
Voilà. Non, oui.
Excusez-moi, mais l'Égypte, l'Égypte a 3700 ans. L'Égypte était grecque.
Non. Elle a été occupée par les Grecs. Les étrangers.
Culturellement. Écoutez, Alexandrie, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Alexandrie, c'était une ville grecque.
Les Allemands ont occupé la France. La France n'est pas allemande.
Je vous parle d'une occupation de 6 siècles.
Enfin, oui, mais 6 siècles sur 4000 ans.
Non, mais d'histoire. Je vous parle d'une occupation de 1000 ans. Entre la conquête par les musulmans et Alexandre, il s'est passé 1000 ans. Pendant ces 1000 ans.
Oui.
Les pharaons étaient d'origine grecque.
Pas du tout. Il n'y a jamais eu de pharaons grecs. C'était des occupants. Hein, Hitler n'a jamais été président français.
Mais Ptolémée était grec.
On va recentrer un peu sur le débat.
Aux échecs. Ouais, je crois qu'il y avait la question de monsieur.
Donc, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, merci pour votre présentation, très intéressante. Donc, plutôt que des questions, j'ai plutôt deux observations très rapides. Donc, déjà, pour revenir au jeu d'échecs, vu que vous l'avez évoqué peut-être indirectement au début, je ne sais pas, ou le shogi, voilà, on retrouve encore cet aspect de l'éléphant, puisqu'il y a encore l'éléphant, et on retrouve encore le vizir qui ne peut se déplacer qu'une case.
Mais c'est vrai que je n'ai pas trop parlé des variantes, parce que moi-même, bon, je ne connais pas trop, et je vous dis, il y a 100 variantes du jeu d'échecs à peu près. Et il y a une belle étude, si vous êtes intéressé par Cazot, qui s'appelle l'Odyssée du jeu d'échecs, où il fait un inventaire de tous ces jeux, toutes les règles, et ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est vaste, hein, je vous dis, voilà, 100 jeux. Et donc, c'est une des pistes qu'ils ont, ils ont une nouvelle piste, c'est-à-dire que maintenant, on cherchait peut-être trop de manière indépendante l'origine du jeu d'échecs occidental par rapport aux autres origines. Donc maintenant, ils vont essayer de faire un travail plus en commun, de chercher toutes les variantes. Donc, par exemple, vous avez quelques chercheurs qui, plutôt que partir du jeu d'échecs, recherchent d'abord toutes les variantes du jeu d'échecs qu'il y a actuellement, en se disant, peut-être comme ça, on va retrouver qu'il y a peut-être un ancêtre commun. C'est une des manières de retrouver aussi, d'essayer de résoudre cette énigme exactement. Est-ce qu'il y a un seul ancêtre des échecs ? Oui ? Ah, ça, je ne sais pas. Non, en fait, que la reine se sera appelée jusqu'à la Révolution ? Non, puisque ce que je vous donne, quand je vous ai dit, c'était... Pardon ? Ah oui, c'était Vierge. En fait, ça vient de Vierge. Vierge, et voilà, c'est transformé. Même si ce n'est pas sûr, mais disons que... Sinon, ils n'auraient pas expliqué comme ça. Non, ça, c'est pas... Voilà. La Révolution... Oui, bon. Oui.
S'il vous plaît. Attendez qu'on vous passe le micro, parce que c'est enregistré, et sinon, on n'entend pas les questions. Ah. Et en même temps, monsieur avait une deuxième question. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont demandé
d'accord.
la parole.
D'accord. Ah, bah, c'est moi, peut-être, qu'il est... Ah oui. Oui, d'accord. Vous aviez
une
autre...
Pardon. Oui. Oui, donc, seconde observation, sans que ce soit une question en soi... l'aspect guerrier en fait du jeu est très intéressant parce que on voit que chaque pièce a une hiérarchie et que le but ultime est la destruction de l'autre en fait, la capture du roi. Donc j'aimerais contraster cela avec certains jeux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu de Go, bien sûr.
Oui, j'imagine. Oui, mais c'est différent, ouais.
Ouais, totalement différent.
Mais c'est un jeu plus commerçant où disons l'autre existe, mais on existe un peu plus que lui. Aux échecs, c'est vrai que il y a une volonté de détruire l'adversaire qu'on n'a pas. Enfin, au Go, on est obligé de lui laisser du territoire et nous, on se laisse. Mais moi, j'en aurais plus que toi. C'est plus. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, à un moment, quand vous aviez les Américains qui étaient un petit peu en danger dans les années 90, qui avaient un peu peur du Japon, ils sont intéressés au Go pour voir un peu comment réfléchissaient les Japonais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Le jeu de dames est-il apparenté aux échecs ?
Alors ça, j'ai pas du tout regardé. J'avoue que j'ai pas du tout regardé, mais je pense que ce ne sont pas du tout les mêmes circuits. Hein. D'après ce que j'ai lu rapidement là, j'ai pas de plus gros détails que ça.
Y a-t-il une relation entre les échecs et l'état de développement d'un pays à un moment donné ?
Alors oui, c'est Kasparov qui dit d'ailleurs que tous les grands champions sont intimement liés au développement du pays dans lequel ils travaillent ou pas. Donc c'est vrai que c'est un signe. Par exemple, il y a des petits signes comme ça même maintenant. Vous voyez, par exemple, on a actuellement le champion du monde, enfin le juste précédemment, avant Carlsen, Anand, qui est un champion du monde indien, donc un petit peu de couleur, qui est passé champion du monde exactement en même temps qu'Obama est passé président de la République. Vous avez la... président des États-Unis, voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez également, actuellement, si on regarde ce qui se passe, vous avez les Chinois qui ont pourtant un jeu, donc qui ont un jeu d'échecs qui est très populaire, mais en même temps qu'ils s'ouvrent commercialement à l'Occident, ben, en même temps, ils se mettent à jouer à notre jeu et ils veulent gagner. Hein. Donc, ils ont déjà gagné le championnat du monde féminin. Donc, ils ont eu une championne du monde féminin plusieurs années. Ils viennent de gagner les Olympiades d'échecs, c'est-à-dire les Olympiades d'échecs, c'est les compétitions entre pays du monde entier. Donc là, ils ont gagné devant les Russes, devant tout le monde, ils ont gagné. Donc après, la nouvelle course, ils veulent être champion du monde, le titre sacré. Actuellement, bon, c'est un Norvégien, mais ils veulent... Donc il y a une volonté quand même, ça peut correspondre effectivement à une volonté politique. Et ça donne quand même une idée de l'activité du pays. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... C'est... Oui.
Bonsoir, merci pour votre exposé. Je voulais juste savoir à partir de quel moment on a pensé les échecs comme un outil pédagogique. Parce qu'on en a, enfin, vous avez exposé comme un simple jeu, mais à partir de quand on a pensé ce jeu comme quelque chose pour
alors, apprendre justement. Quand vous voulez dire pédagogique, c'est auprès de qui?
Les enfants.
Ah bah pour les enfants, c'est très récent. C'est très récent, je pense, parce que déjà, bon, moi, ça fait partie, c'est une partie de mon métier aussi d'enseigner. Disons que ça se développe. Le gros développement a eu lieu à peu près dans les années 80 aux États-Unis, hein, où il y a eu un gros travail sur, par des gens comme Ashley, qui ont développé le lancement du jeu d'échecs dans les écoles. Mais disons qu'avant, l'enseignement des échecs était quand même lié un peu à l'aspect militaire. Il était beaucoup enseigné. Dans les écoles militaires, il était tradition de jouer aux échecs. Mais le côté outil pédagogique pour des enfants des écoles, bon, c'est assez récent. Je vous dis, en France, ça se développe. Moi, ça fait 20-25 ans que je travaille un petit peu. Bon, ça se développe et on est en plein développement. Hein, et c'est tout. Bon, voilà. Mais je pense pas. À part les Russes. Mais les Russes, c'était un... Voilà, ils le faisaient aussi dans les écoles. Mais c'était plus... c'est pas très, très vieux, en tous les cas. Attendez, il faut prendre le micro là parce que sinon.
Juste, enfin, je voulais appuyer ce que tu venais de dire.
Ah, oui, pardon.
C'était juste pour appuyer ce que tu venais de dire. Tu as parlé de Carlsen, tu aurais pu signaler quand même la Norvège est le pays qui est aujourd'hui dans le monde a le PIB par habitant le plus élevé.
Ah oui, donc oui, voilà, par rapport à la question précédente.
Voilà,
oui, d'accord.
Par rapport à ça. Et pour donner un autre exemple, dans le passé, tu parlais de la Renaissance. À la Renaissance, c'est l'Espagne qui dominait le monde, avec la découverte de l'Amérique, ouais, la ouais. Grande Armada, Charles Quint, etc. Et le plus grand joueur du monde à l'époque, c'est le fameux Ruy Lopez.
Ruy Lopez, enfin, même si à l'époque, on n'était pas sûr. Mais voilà. Pareil, avec l'Italie qui était parallèle et qui a été très active durant la Renaissance, a été active aussi.
Oui, active aussi, puis la France.
Mais c'est aussi
France
pour des raisons aussi, parce que c'est les premiers. Après, on peut voir, mais c'est aussi on peut voir aussi que c'est les premiers qui ont été en contact avec le jeu d'échecs. Donc après, il y a les deux versions. Mais c'est vrai que cette version est très répandu aussi de dire ça. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que par exemple, bon, vous avez la Renaissance, en même temps, le jeu d'échecs, pour des choses comme ça, vous avez le jeu d'échecs qui se stabilise. Donc avec, vous avez un joueur d'échecs, Philidor, qui dit les pions, donc les pièces les moins fortes aux échecs, sont l'âme du jeu d'échecs, juste avant la Révolution française. Vous avez des petits trucs comme ça à chaque fois qui sont marrants par rapport à ça. Oui, alors il y avait une autre... Ah, pardon, oui.
Quel était le matériau utilisé pour l'échiquier, là?
Bah là, ça dépendait. Vous avez... quand vous étiez sur des... excusez-moi, quand c'est à peu près à quel moment par rapport à...
Au début, là, avec les musulmans, là.
Ah, eux, alors c'est souvent, c'était des simples tissus, des simples bouts de tissu. Soit même, des fois, c'était dessiné. Puisque justement, en plus, c'était un échiquier unicolore. C'était très vraiment... Souvent, c'était que des... Vous voyez, celui que j'ai mis, c'est un mauvais exemple. Mais, parce que j'ai mis une version moderne. Moi, l'échiquier unicolore que j'ai trouvé, c'était une version moderne. Mais j'en ai trouvé d'autres. Mais bon, les qualités d'image n'étaient pas assez suffisantes, d'après certains amis, pour que je puisse vous les diffuser. Merci. Mais sinon, ouais, c'était plutôt du tissu. Ouais.
Oui, excusez-moi. J'ai une question concernant le fou. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un rapport avec le fou du roi, éventuellement?
Oui, oui. Bah après, c'est ce qu'on dit, mais l'étymologie, la version officielle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, c'est alfil, c'est le mot qui s'est transformé de auphine à folle via le provençal. Après, nous, c'est vrai que c'est ce qu'on dit après, a priori. Mais ce n'est pas une version, disons, nous on dit ça maintenant pour expliquer, pour que les gens puissent, pourquoi le fou. Mais la recherche des historiens, ils ont plus les côtés étymologiques. C'est-à-dire, alphil, ophin, fol en déformation. De...
D'ailleurs, en Angleterre, la pièce s'appelle comment ?
Bishop.
L'évêque. Alors...
Oui, non, mais là, je l'ai dit, tout, c'est par rapport à la mitre. En allemand, je ne sais plus, Laufer. Oui, le... Oui, et c'est resté, en russe, c'est resté l'éléphant. Oui, oui, je sais. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est, bon, oui, ça montre aussi qu'eux, ils ne sont pas passés par nous.
Vous laissez parler la personne qui a...
C'est ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous dis, ce chemin-là, on n'en parle pas beaucoup, mais il est très important aussi. Alors, monsieur, le chemin vers la mer Noire. Et c'est vrai que, bon, dans les livres, enfin, dans les livres d'échecs français, etc., ben, on en parle moins.
Alors... Moi, j'ai une question au niveau du classement par Elo. Je
vois pas qui parle,
je suis là.
En fait. Ah oui, pardon.
C'est pas grave. Au niveau du classement par Elo, on sait qu'aujourd'hui, dans les tournois, les classements des joueurs se font par Elo. Et vous avez parlé du premier tournoi du championnat mondial au fin 19e siècle. Je voulais savoir si le classement se faisait aussi par Elo ou est-ce qu'il y avait un autre.
Alors, non, le classement Elo, il est apparu dans les années 60-70. Disons que Elo, c'est le nom d'un professeur en mathématiques. Oui. Qui a inventé une formule assez complexe hein, et qui permet de classer les joueurs entre eux. Il a proposé ça au tennis, ils ont fait des essais, ça n'a pas marché, ils n'étaient pas contents. Et ça arrivait aux échecs après. Mais je crois que ça a commencé en gros dans les années 60 à peu près. Voilà. Donc c'est quand même relativement récent, hein, le Elo.
Je voulais savoir. Pardon, monsieur.
Oui.
Est-ce que vous considérez que c'est un échec pour l'homme que le champion du monde d'échecs soit battu par un ordinateur Deep Blue ?
Ah oui, bah non, non. Non, d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je ferai conférence bientôt sur le sujet dans le troisième, là, sur l'homme, le combat homme-machine. Oui ? À la mairie du troisième. Voilà. Et Xavier sera là.
Ah bah je vais pas répéter toutes les bêtises comme ça avec Tanseroth. Est-ce que la jeune femme est toujours là ? Nous allons le voir tout à l'heure.
Je voulais vous demander quelle qualité était requise pour un joueur d'échecs ? Quelles étaient les qualités requises pour un joueur d'échecs ? J'ai entendu parler de géométrisation. Une qualité de géométrisation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'infini, des multiplicités de...
Oui, en fait, non. Quand on dit géométrie... bon, là, on va un peu loin par rapport au sujet, mais quand on dit géométrisation... En fait, ce qui se passe dans la qualité importante du joueur d'échecs, en gros, vous avez... Bon, la majorité des sportifs, c'est de courir. Bon... Le joueur d'échecs, ce qu'il doit utiliser tout le temps, c'est ce qu'on appelle la visualisation, c'est-à-dire être capable de voir des positions qui ne sont pas encore là, à l'avance. Et c'est une capacité physique, ça demande beaucoup d'énergie, et il y a des recherches de fait. Mais là, c'est bon, j'ai fait des trucs sur ce sujet-là, mais bon, c'est un peu loin. En gros, c'est plutôt la visualisation qui est importante, c'est-à-dire être capable, déjà, un joueur d'échecs, il doit être capable de visualiser l'échiquier, de connaître les cases, mais aussi d'arriver à faire bouger les pièces dans sa tête. Donc ça, c'est un peu bon. Mais après, ça peut avoir un rapport avec la géométrie, oui. Mais disons que quand on parle de visualisation, d'après un peu les enquêtes que j'ai faites, on voit, c'est pas quelque chose de physique qu'on voit. On voit pas, c'est des forces qui se... Mais bon, c'est un autre sujet quand même. Et comment ?
Quand même certains joueurs d'échecs qui se perdent dans les villes. Hein
oui, oui.
Donc la spécialisation. Oui,
ça, c'est, voilà, exactement. Hein
eh oui.
Et des très forts joueurs, d'ailleurs.
Eh oui, 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 oui.
Et à partir de quand les femmes ont commencé à jouer aux échecs de façon, disons, suffisamment importante, hein, parce qu'on sait aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus fortes. Mais dans l'histoire que tu as racontée, est-ce qu'on a des traces de ça ?
Non, enfin,
de grandes joueuses, peut-être plus loin dans le passé, quoi.
Oui, non, mais là, lui, tu parles en dehors du XXe siècle, tu parles même avant. Ouais, ben non, j'ai pas vu de traces, hein, mais je pense pas que tu t'attendais à une réponse positive non plus. Ah, 13e, toi, t'es... Ah, ben il a une réponse. Il a une réponse. Mais nous dis pas qu'elle est égyptienne. Hein.
D'accord, elle n'est pas égyptienne, ni grecque. Non, mais au XIIIe siècle, les échecs avaient une grande importance, puisqu'on il a parlé
ah, oui,
de l'origine. Non, mais il a parlé du transit, si je puis dire, épistémologique, enfin, pas épistémologique, mais étymologique, pardon, via le provençal. C'est parce qu'il y avait la cour, donc il y avait le royaume catalan, si je puis dire, qui allait du nord de l'Espagne jusqu'à l'Italie. Et c'était l'époque de l'amour courtois. Et les femmes jouaient aux échecs. Et à cette époque-là, le jeu d'échecs, voilà, c'était une symbolique de l'amour courtois. Et les femmes devaient gagner à ce jeu. Donc la première importance des femmes aux échecs, c'est à travers l'amour courtois.
Mais c'est vrai que j'avais prévu. Hein, donc j'ai quelques images sur le sujet.
En plus, c'était la pièce la plus puissante. Et dans cette allégorie de l'amour courtois, on faisait allégeance à la dame, qui était la pièce la plus forte, etc., et qui menait le jeu. Donc on peut dire que c'est la première... peut-être pas, alors on connaît pas le nom de joueuse, mais la femme était la personne la plus importante dans,
voilà,
le jeu.
Vous aussi êtes bien à l'illustration,
comme
joueuse,
là. Comme pièce sur l'échiquier.
Voilà, il y a l'illustration, effectivement. Mais bon, lui, tu voulais des bonnes joueuses, c'est ça? Non, c'est vrai qu'il y a eu toute cette tradition. Et donc j'avais prévu, mais bon, le temps était un peu court, d'en parler un petit peu, puis ça dépassait un peu le cadre de ce phénomène. Vous avez par exemple ici, pour illustrer un peu, Tristan Iseux qui buvant le filtre d'amour. Et là, vous avez aussi, là, c'est un tableau de Léonard de Vinci et sa muse. Donc, effectivement, ce qu'il a dit est vrai, c'était que ça faisait considérer comme un jeu de l'amour, un jeu de séduction. Mais c'est un peu plus tard que le 13e, quand même. C'est plutôt 14, 15e. Mais, ouais. Non, mais j'ai regardé un petit peu.
Pardon. Oui. Il y a un aspect très addictif de ce jeu, où on a vu notamment... Il y a un aspect très addictif où on a constaté en France, par exemple, beaucoup de jeunes qui s'abîment socialement à travers ce jeu. Vous qui êtes instructeur, est-ce que vous en tenez compte vis-à-vis des enfants? C'est-à-dire que c'est un jeu qui accapare énormément par ailleurs. Est-ce que comment faites-vous pour conduire, aussi bien vous que dans d'autres écoles, pour conduire un enfant vers le jeu sans le détourner de la construction personnelle?
Voilà, là, on sort un peu du cadre. Ouais. Bon, après, c'est vrai que l'addiction, elle arrive à un certain niveau. Non, je regardais parce que justement, c'est une des raisons, je cherchais le texte exact, cette addiction a été une des raisons de l'interdiction officielle, qui n'a pas été forcément suivie au XIIIe siècle par notamment le pape et les échecs. Ils avaient peur que... alors, là, vous voyez, par exemple, j'ai la liste des interdictions par les religions. Et donc, c'est quand même important. Vous voyez, j'en ai deux pages dans l'histoire du jeu. Donc, ce n'est pas anodin. Vous voyez, un petit jeu d'échecs, mais quand même... aussi bien par un peu par toutes les religions, les musulmanes, etc., et chrétiennes. Mais je réponds à cette question, c'est sur l'enseignement du jeu. Après, il y a le cas où ça devient vraiment trop addictif, ça arrive, mais c'est généralement des enfants de très haut niveau. Hein. C'est rare qu'on arrive à que les enfants... et à la limite, vu le temps qu'ils passent sur les jeux vidéo, les parents, souvent, ils sont super contents de les voir jouer aux jeux d'échecs. Hein. Donc, vous voyez, le côté jeu est tellement développé... ça arrive dans des cas, mais vraiment, les cas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Déjà, il faut travailler les échecs. Voilà. Et puis, mais ils ont tellement l'occasion de jouer à des jeux un peu plus faciles d'accès, disons, qu'on est rarement dans ces cas-là encore.
On laisse encore deux questions.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai une petite question. Dans le jeu d'échecs chinois... il y a une pièce qui est très atypique, qu'on appelle le bombardier.
Oui.
Et je voulais savoir si vous connaissiez son origine, par hasard.
Non, là, je ne peux pas vous dire, là. Non, j'avoue. Même si vous me demandiez comment
elle
se déplace...
Parce qu'on retrouve le cavalier, on retrouve la tour, on retrouve...
Ouais,
le...
ouais. Non, mais c'est vrai que je ne connais pas trop les bombes. J'avoue, je ne vais pas...
Merci.
Alors, Xavier, peut-être, par contre.
Je n'ai pas entendu la question.
La bombarde. D'où vient la bombarde?
Non, mais l'acception, il y a plusieurs... Il y a la bombarde, mais je ne pense pas que vous fassiez référence à l'instrument de musique.
Non, non.
Non. Donc, c'est la pièce pour le jeu chinois, peut-être Oui. Et quelle est la question? La forme?
D'où elle vient? D'où elle vient?
Ah, elle vient de Chine.
Non, mais ça doit être... ça doit être... Ça doit être... C'est simplement l'illustration du canon, mais bon, après... Bon, il y a toujours des... Alors, une dernière question.
Une dernière question. Qui pose la dernière question?
Ah, voilà.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses et très médiatiques images entre un ordinateur, un superordinateur et un champion d'échecs? Ça a été très médiatisé pour la presse.
Ah, vous y revenez. Oui, donc, en fait, maintenant, il n'y a plus de match, hein. C'est-à-dire que jusqu'à c'est 97, je crois. Hein, oui. Donc, il y a eu... maintenant, il n'y a plus de match. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'homme travaille avec la machine. Maintenant, c'est-à-dire que quand vous discutez avec un bon joueur d'échecs, il vous parle en... la position, elle est 1.02, c'est l'évaluation des machines. On ne vous dit pas, tiens, les blancs, ils ont l'avantage. On dit, bon, là, ça vaut 2.0, 1.04. Enfin, bon, tous les joueurs d'échecs le savent. Donc, maintenant, c'est un travail en équipe. C'est plus, y a plus de confrontation. Les confrontations n'auraient pas de sens. C'est-à-dire que le champion du monde, je ne pense pas qu'il ait grande chance contre les ordinateurs actuellement. Il n'y a plus d'enjeu. Hein, donc, il y a eu le match de Kasparov. Après, il y a dû avoir un match contre Kramnik et quelques matchs après. Mais ça s'est assez vite arrêté. Hein, ça n'est plus... les ordinateurs sont devenus trop forts. Alors, pas forcément en compréhension de jeu, parce que même maintenant, on ne peut pas suivre la machine aveuglement. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils regardent ce que propose la machine, au point de vue évaluation, la machine se trompe souvent. Mais... sur le long terme, la machine gagne. Parce que, déjà, elle a un jeu déroutant et elle fait zéro faute, alors que même les meilleurs joueurs, ils ont des grosses fluctuations. Donc, voilà. Donc, sur une évaluation, ça dépend des types de positions, sur une évaluation, l'homme peut être encore plus fort que la machine. Mais par contre, bon, au niveau jeu, il n'y a pas de match. Donc, c'est vraiment un travail en collaboration actuellement. Les humains, enfin, ceux qui préparent les champions, quand ils se préparent, il regarde ce que jouerait la machine dans des conditions similaires.
Voilà. Bon, nous remercions Stéphane Chabanel pour sa conférence. Et je vais demander à tous ceux qui se sont inscrits pour le tournoi de suivre Xavier Ruvini.